I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps, en ce mois de juin 2023? Alors, on a le dégraissage dans la tech des processeurs plus simples, un panorama des outils cloud et j'ai oublié, une typo qui casse un cloud provider. Tout ça, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Alors, bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a une petite sélection d'outils. Et avec moi, ce soir, pour parler d'actu, il y a René. Bonsoir, René.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
Et Erwan, bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Et on va commencer tout de suite par la traditionnelle rubrique du courrier des auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lire un message de Gros Ouna qui nous a laissé un message sur YouTube, puisque Gros Ouna nous laisse souvent des messages sur YouTube. Alors, il nous disait, j'ai oublié l'épisode, mais c'était un actu DevOps. Il nous disait, une fois de plus, j'adore les formats, les intervenants. Si un jour vous recherchez un intervenant sur Azure ainsi que sur le DevOps, il ne faut surtout pas hésiter. Emoji clin d'œil. Eh ben, écoute, déjà, merci Goruna pour ta fidélité, parce que je sais que ça fait quelques temps que tu nous suis. Et moi, je dis pourquoi pas, en effet, même si c'est pas ma cam Azure, je pense que ça intéressera pas mal de gens. Et puis, de manière générale, le DevOps, ça intéresse pas mal de gens, donc je prendrai contact avec toi, puisque on est en contact sur LinkedIn. Et du coup, il nous parle des formats et des intervenants. Je sais pas si vous deux, vous avez un avis sur notre format. Justement de format d'actu et enfin les émissions qu'on a.
Ouais, déjà il y a pas mal de formats différents que tu animes entre les retours d'expérience, les actus, les sujets qu'on traite, les interviews de gens. Il y a de quoi faire, il y a de quoi avoir des intervenants très variés et des sujets très très variés aussi.
René, toi, t'as un avis?
Bah, je pas forcément plus à dire que Erwan. Moi, je trouve que tu fais un boulot assez phénoménal, donc et je trouve ça super de partager sous ces différentes formes.
Eh ben, écoute, on va continuer. C'est vrai que j'ai relancé les interviews. On a mis en retrait, mais. On a ralenti sur les radios DevOps pour pouvoir sortir en alternance des interviews et des radios DevOps un mois sur l'autre, parce que j'ai bien envie de m'essayer à l'interview, et j'ai trouvé justement, je ne sais pas si vous avez écouté le directeur de la recherche de Scaleway que j'ai interviewé, et il y a d'autres interviews qui sont en préparation. Donc tu l'auras compris, si tu nous écoutes en podcast et pas forcément que sur YouTube, tu peux nous laisser un message. Bah, sur Apple Podcast, on n'en a toujours pas. Sur Podcast Addict, on en a quelques-uns, ou sur YouTube, ou même sur le forum, puisqu'il y a beaucoup de compagnons et compagnonnes qui commentent sur le forum, puisque chaque épisode de podcast a un post sur le forum. Alors, c'est moi qui m'y colle avec la première news, qui est plutôt un édito news qu'une news. En fait, on va parler des vagues de licenciement dans la tech. En effet, on n'avait pas encore traité le sujet des vagues de licenciement dans la tech, mais puisque Le Monde en a fait un article, on va en profiter. Alors, son titre, c'est « High Tech, les leçons d'une vague historique de suppression d'emplois ». Il est sorti le 9 juin 2023, et on y apprend que, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, celui-ci a viré 6500 personnes, soit 80% des effectifs quand même. Oui, on finit par parler d'Elon Musk dans Actu DevOps, mais bon, pourquoi pas. Donc, Twitter devient le symbole de la purge brutale conduite par le secteur high-tech aux États-Unis. Dans un autre article de la Tribune, que je vous mets aussi en lien, on parle de 130 000 emplois qui auraient été supprimés dans le secteur de la tech en 2022. Alors, si cela t'intéresse, il y a le site Layoff, qui est aussi en lien dans les descriptions de l'épisode, qui suit les licenciements de la tech et notamment annonce un chiffre mirobolant de 208 000 employés licenciés en 2023. Alors ça, c'est au niveau mondial, même s'il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis, c'est au niveau mondial. Alors, est-ce qu'on doit craindre un effondrement des métiers de la tech? Personnellement, moi, j'en doute, parce que en fait, beaucoup de personnes, au fil des mois, soulignent le fait que ces entreprises-là qui licencient à tour de bras, parce qu'il y en a beaucoup qui ont licencié, il y a eu Red Hat récemment, il y a eu Google, enfin, plein d'entreprises. Mais en fait, c'est souvent lié à des entreprises qui avaient surembauché en sortie de crise Covid. On était dopé par l'activité et la reprise de l'activité. Donc, selon moi, c'est juste un retour d'un niveau d'embauche dit normal. Alors, d'autre part, alors on parle des employés qualifiés et ils n'ont aucun mal à retrouver un emploi puisque la pénurie de talent, elle est toujours d'actualité. Alors, je suis pas le seul à penser ça puisque l'indice boursier Nasdaq, profitez-en, j'en parle pas souvent de la bourse, mais voilà. Donc cet indice boursier Nasdaq, qui je le rappelle est les 100 plus grandes valorisations tech aux États-Unis, est repris à la hausse depuis janvier 2023 après un an de chute justement. Et il est actuellement à 15 084 points, pas loin de son record historique de 16 765 points. Autant dire que tout ne va pas si mal. Alors, est-ce que ça peut nous arriver en Europe? Je sais pas, parce que j'ai pas les chiffres d'embauche post-Covid, mais si les boîtes tech n'ont pas embauché à tour de bras comme les boîtes américaines, ça devrait pas être pareil chez nous. Et même si c'est le cas, je pense que ce sera pas trop grave, parce que les techs peuvent rebondir facilement, puisque chez nous aussi, il y a potentiellement une pénurie de talents. Alors, c'était, comme je vous le disais, un sujet un peu édito, et je voulais avoir votre sentiment à tous les deux sur ce sujet-là. Erwan, est-ce que tu veux bien commencer et nous dire ce que t'en penses, toi, de... parce que j'imagine que t'as suivi, comme tout le monde, ces vagues de licenciements.
Bien sûr, effectivement, les licenciements chez Twitter ont fait beaucoup parler sur Twitter, notamment avec, en plus, des histoires un petit peu hallucinantes de mecs qui ont appris leur licenciement par tweet parce qu'ils étaient pas ils faisaient une remarque sur un troll ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui ont été virés, qui ont été repris, puis revirés deux semaines après. Enfin, Twitter, ça cristallise pas mal. De ce problème-là, mais effectivement, moi j'avais la même compréhension que toi, c'est que le post-Covid, il y a plein de boîtes qui ont été peut-être un peu trop ambitieuses sur les recrutements, et c'est ce qui explique une partie des licenciements. En France, enfin tu disais même en Europe, alors, je pense pas que ça soit lié à l'histoire de trop d'embauches post-Covid, etc. Mais je me souviens de Zenly qui a juste fermé suite à leur rachat, etc. Enfin, il y a eu un peu de temps, mais après ça a été fermé avec du coup plein de techs qui ont perdu leur taf. Ce qui me rassure un petit peu dans ces moments-là, c'est que mine de rien, il y a un peu de solidarité quand ça arrive. Il y a tout de suite des espèces de pages GitHub qui sont ouvertes avec les CV des gens. Il y a des hashtags qui sont mis en place et qui permettent à pas mal de gens de pouvoir rentrer en contact avec justement les personnes qui sont impactées par tout ça. Donc effectivement, c'est sûr que en termes d'ampleur, je crois pas qu'il y ait la même chose en Europe, mais en tout cas il y a pas de raison qu'il y ait pas un pattern à peu près similaire, puisqu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont beaucoup embauché post-Covid. Donc à voir, mais comment dirais-je? Enfin, bon, les chiffres, ils sont quand même assez hallucinants. Plus de 200 000 personnes, là, ça fait mal. J'imagine, René, que t'as un avis encore plus éclairé sur la question, vu que ça parle d'une boîte que tu connais.
Ouais, je sais pas si c'est plus éclairé. Après, en travaillant chez Red Hat, on a eu les annonces. Donc, ça fait entre, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 800 personnes qui vont être licenciées. Après, je pense que c'est effectivement plus un ralentissement. Je pense que Christophe a raison. Je pense que toutes ces boîtes-là anticipent. Je ne vais pas parler de Twitter, parce que Twitter, pour moi, c'est un peu un cas à part, un peu un phénomène, un truc vraiment particulier. Mais les autres sociétés, je pense, elles ont anticipé peut-être un ralentissement et du coup, elles procèdent à des vagues de licenciements. Côté Red Hat, toutes les fonctions ne sont pas touchées. Voilà, ça cible plutôt les gens côté administratif et tout ce qui est management. Enfin, un project management, ce genre de choses. Après, malheureusement, dans ce genre de situation-là, c'est pas toujours top parce que, parfois un peu bête. Et notamment, il y a, je crois, un des project leaders du projet Fedora qui a vu son poste supprimé. Donc, c'est malheureusement pas toujours très fin les personnes qui partent dans ces périodes-là. Après, je sais aussi, je crois que j'avais entendu pour Shopify, il y avait eu, ils avaient fait un pari en fait d'avoir une croissance un peu forte, et puis c'est pas venu. Du coup, ils ont stoppé les embauches et fait des licenciements. Quoi. C'est pas super, mais bon voilà, je pense que malgré tout, c'est pas encore la catastrophe, et notre domaine reste quand même suffisamment dynamique. On voit qu'il y a quand même toujours des annonces. Je pense qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus sinistrés. Je pense qu'on n'a toujours pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu mon avis.
C'est vrai qu'on parle des métiers de la tech. Alors, c'est pas que des développeurs, développeuses ou des ops. C'est vraiment tous les gens, qui, comme tu le disais, René, qui tournent dans l'écosystème tech, mais dont on a besoin. Moi, je pense qu'un jour, il faudrait qu'on ait un sujet de discussion un peu sérieux sur l'automatisation et la destruction de l'emploi et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Parce que, comme tu le disais, Shopify, il prévoyait une croissance. Mais en fait, je pense que aujourd'hui, dans l'état actuel de nos ressources, la croissance a fini. C'est clair qu'on peut plus y aller. Moi, je vois, je sais pas si vous suivez les glaces au pôle et leur renouvellement qui sont catastrophiques. Et je trouve que on est dans une sorte de vœu d'expansion, alors qu'en fait on devrait plutôt se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit vraiment faire, qu'est-ce que la tech doit faire pour aider à la transition écologique, ou en tout cas à la limite de la casse, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est plutôt dans un monde où c'est trop tard, il faut limiter la casse. Bon, je désolé pour ce petit côté dépressif, mais bon. On n'a pas de problème dans la tech. Moi, à titre perso, la seule fois où j'ai été au chômage, c'est quand j'ai créé mon activité de freelance. Donc, c'était pas vraiment du chômage parce que j'ai eu des emplois tout de suite. Et en fait, depuis que j'ai commencé, je me suis jamais arrêté. Je sais pas vous, si à un moment donné, vous avez eu un vrai arrêt dans votre carrière ou pas du tout.
Non. Personnellement, non, ça m'est jamais arrivé, en fait. J'ai cette chance-là. Et puis, si vous voulez juste rajouter un petit quelque chose, c'est que parfois aussi, les gens, notamment aux États-Unis, les gens qui sont parfois licenciés comme ça, c'est des gens qui parfois vont rebondir, et puis ça va aussi créer des fois des opportunités, ils vont créer de nouvelles sociétés, donc... Voilà, c'est parfois... ça génère aussi... après, à la suite, un peu un certain dynamisme à ce niveau-là.
Je pense aussi que ça va créer un dynamisme parce qu'en plus, il y a des boîtes qui cherchent à embaucher qui ne pouvaient pas, et là, elles pourront parce qu'en effet, il y a des gens qui vont se libérer. Alors moi, je me pose aussi une question à savoir si ça va faire diminuer les salaires de la tech aux États-Unis qui sont énormes, ces vagues de licenciements. Je ne sais pas s'il y a un impact, mais potentiellement, dans les années à venir, il y a une possible redescente, je ne sais pas. Et toi, Erwan, un avis justement sur... Enfin, plutôt, est-ce que toi, tu as déjà eu des périodes de, de pause dans ta carrière?
Non, non, j'ai un peu comme René et toi, j'ai eu, je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais globalement, tout s'est toujours plutôt bien enchaîné, très peu de, en tout cas, pas de pause imposée. C'est plus comme ça que je pense qu'il faut le voir. Et ouais, bah, enfin, paraphraser ce que disait René, mais c'est vrai que même s'il y a eu beaucoup, en tout cas, même s'il y a eu beaucoup de licenciements, etc., ceux qui sont liés directement à des postes de tech, ils sont quand même un peu épargnés sur l'angoisse de retrouver du taf. Mais bon, ouais, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que ton vœu pieux de la croissance infinie de Scalbé, j'ai peur que ça soit compliqué à mettre en place.
Je vous parlerai de mes idées un jour, de comment je pense que ça va se passer, mais ça va pas forcément bien se passer selon moi, mais bon. En fait, à partir du moment où on a un peu d'expérience, c'est vrai que c'est hyper facile de trouver un nouveau job. Toutes les portes sont ouvertes, il suffit d'avoir un profil LinkedIn un peu ouvert ou même maintenant un profil GitHub. C'est assez facile. Mais néanmoins, si tu cherches un taf, tu peux quand même aller checker mon job board. Les liens sont en description. C'est gratuit. C'est mon petit appel à l'action avant de passer à la suite et avant de passer le relais à René qui va nous parler de CPU.
Alors oui, donc je vais vous parler d'une proposition qu'a faite Intel. Donc ça reste à l'état de proposition, hein, c'est pas encore acté, mais Intel a annoncé de nouveaux processeurs x86S avec le suffixe S. Et en fait l'idée, ça serait de retirer en fait tout les entre guillemets vieilleries qu'il y a dans les processeurs x86, donc d'enlever le mode 16 bits, en partie certaines choses pour le 32 bits, à savoir qu'aujourd'hui quand un CPU Intel x86 démarre, il passe par différents modes, le mode réel, etc. Et c'est des choses qui étaient valides pour garder la compatibilité avec par exemple le DOS et d'anciens systèmes d'exploitation et qui n'ont plus trop lieu d'être aujourd'hui. Donc voilà, une espèce d'approche pour enlever un peu la dette technique qu'il y a dans ces processeurs-là. Et voilà, ça va permettre aussi de retrouver peut-être de la surface pour augmenter la puissance des puces. Le point un petit peu, alors pas forcément négatif, c'est que forcément un certain nombre d'operating systems comme DOS, etc. ne pourront plus être exécutés. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus trop un problème, mais bon, voilà, ça reste une proposition à voir comment ça évolue, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je vous laisse la main.
Je vais réagir, mais ça me paraît. J'étais même pas au courant qu'il y avait encore de la rétrocompatibilité dans les processeurs. Je tombe des nues en fait parce que je me dis ça fait quand même longtemps qu'on est passé aux 64 bits. Je me rappelle naïvement, je suis un ancien joueur. Maintenant, je suis à nouveau un joueur de jeux vidéo, mais à l'époque, l'arrivée de la Nintendo 64, c'était un événement. En fait, je pensais bêtement que il n'y avait pas de rétrocompatibilité. En tout cas, pas en 2023, qu'on avait encore du 16 et du 32 bits dans nos processeurs. Et je trouve ça un non-sens écologique important de laisser ça dans les processeurs, alors qu'en effet, on cherche de la place et on a besoin de ressources. Et donc, c'est qu'une bonne chose, hein, en fait. C'est qu'une bonne chose, surtout que je pense... vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais je pense qu'on peut émuler du 16 bits sur un processeur à 64 bits sans aucun problème.
Oui, à première vue, je pense que pour les gens qui auront toujours besoin de faire tourner, alors je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais qui ont besoin de faire tourner DOS ou un certain nombre de choses, probablement il y aura de l'émulation possible. Ça existe déjà, dans une certaine mesure, c'est pas vraiment de l'émulation parce que il y a tout ce qu'il faut dans les processeurs aujourd'hui. Là, faudra certainement faire évoluer un petit peu ces émulateurs pour que ça fonctionne avec ces nouveaux processeurs s'ils arrivent.
Et puis sinon, il y a encore tout un tas de vieux processeurs 16 32 bits qui fonctionnent encore, hein. Donc on peut encore les utiliser, je pense. Erwan, t'en penses quoi de ça?
Moi, je suis pas spécialiste du tout de ce genre de sujet, mais effectivement, si je comprends bien le fait de dropper ça au-delà de virer une partie legacy, c'est que ça permet de gagner, de pouvoir gagner en performance, etc. Et puis j'imagine pouvoir proposer d'autres innovations. Donc ouais, ça ressemble au sparadrap que personne n'a voulu retirer jusque-là. J'en sais rien. Je serais curieux de savoir pourquoi c'est que maintenant que se pose cette proposition arrive. Je serais curieux parce que ça me paraît surprenant. Mais sinon, effectivement, à part pour aujourd'hui garder un peu pour de l'historique et être en mesure de toujours faire tout tourner pour de la conservation musée et tout ça, bon, moi quand je vois ce genre de news, je me dis bon allez go, on avance et hop là quoi.
En fait, il y avait déjà eu une tentative avec Itanium côté Intel. Donc pour ceux qui se rappellent, ça fait quelques années, de passer à un 64 bits qui a justement perdu un petit peu tout ce côté legacy. Mais ça n'a pas pris parce que pour différentes raisons, c'était cher, c'était à destination des entreprises, donc pas forcément du grand public. Les compilateurs n'étaient peut-être pas aussi efficaces que ce qu'il y a aujourd'hui. Et surtout, le x86, en termes de différence de performance, au début, Itanium était devant, mais ça s'est rapidement comblé avec les processeurs x86 sont revenus quasiment comparables en performance en termes de performance et à un prix bien moindre. Du coup, Itanium n'a pas pris. Et voilà. Et on a gardé un petit peu ce côté historique.
Alors, puisqu'on parle de processeurs, René, est-ce que tu sais si dans les processeurs ARM ou RISC-V, est-ce qu'il y a la même chose? Est-ce qu'il y a une rétrocompatibilité ou est-ce que ça n'a jamais existé?
Non, je crois que c'est justement une des forces de... Enfin, je ne sais pas si c'est une force, mais, enfin, mais voilà, on va dire que c'est une des caractéristiques dans ces processeurs-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus... Ils enlèvent beaucoup plus facilement ce qui... déjà, c'est plus récent, et puis ils enlèvent beaucoup plus facilement les choses. Ils ont moins cette philosophie de garder une compatibilité pendant très 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 longtemps.
Du coup, c'est ce qui explique aussi le fait qu'il soit souvent moins cher, parce que si tu graves pas des trucs qui servent à rien, du coup, la meilleure économie d'énergie, c'est celle que tu fais pas, et la meilleure économie financière, c'est ce que t'as pas besoin de produire en fait.
Oui, ça doit jouer. Après, de quel ordre, ça c'est
pas de beaucoup, c'est sûr. Pas de beaucoup, c'est sûr, mais. C'est en tout cas, philosophiquement, moi, ça m'interroge.
Ça a été quand même... côté Intel, ça a aussi été vendu comme étant une force. C'est-à-dire qu'un applicatif, tu pouvais le faire tourner très longtemps dans le temps. Donc, il y a aussi, je pense, des industriels qui avaient besoin de cette compatibilité-là. Et ça a arrangé pas mal de gens, je pense. C'est pas complètement négatif non plus, mais là c'est vrai que cette compatibilité elle date depuis vraiment longtemps, donc là il faut peut-être quand même penser à enlever des trucs quoi.
Ouais, ça commence à faire, hein. C'est les années 90 il me semble, le 64 bits.
Ce dont on parle, d'enlever le 16 bits et tout, ça date du 286 ou même avant, donc.
Ouais, c'est ça. Le 16 bits, je sais c'est même pas si bien. J'ai déjà eu un processeur 16 bits. Je pense que j'étais déjà au 32 bits quand j'ai commencé à avoir un PC entre les mains.
Moi, j'ai eu, moi, mais...
On va passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, si tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir avec un don. Tu peux le faire sur soutenir.compagnon-devops.fr. Tu trouveras le lien en description. Pourquoi je fais un appel aux dons? C'est parce que ça nous aide à payer l'hébergement du podcast, le logiciel qu'on utilise pour enregistrer les podcasts, l'hébergement du forum, enfin tous les trucs qui tournent autour de la communauté, puisque avec la publicité, c'est les seuls revenus, et ça représente pas non plus des sommes conséquentes. Mais...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pourquoi pas, ça suffirait à l'avenir. Alors, Erwan, c'est toi qui vas nous parler de choses que j'adore, puisque j'ai un passé de maquettiste, les typographies. Enfin, je crois que c'est ça.
Ah, non, non, c'est... Enfin, on va évoquer tout ça. Alors, fin mai, on a appris qu'il y a eu un incident assez important sur les instances Azure DevOps dans la région sud du Brésil, donc la fameuse El Famoso SBR. La panne, elle a été assez violente puisqu'il a fallu à peu près 10h30 pour rétablir l'intégralité des environnements et des services associés. Et en fait, pourquoi ça a eu lieu fin mai, mais pourquoi on en parle maintenant, c'est que en fait, Microsoft a publié un petit post-mortem sur leur blog, et pour expliquer un petit peu la panne et ce qu'ils ont fait. Et donc du coup, on va décrypter un petit peu ça ensemble. Le lien sera dans les descriptions, etc. Alors, pour comprendre la panne, il faut donner un petit peu de contexte. Les ingénieurs Azure DevOps, là, et, parfois, ils ont besoin, en fait, de faire des espèces de snapshots de bases de données de production pour enquêter sur des réclamations, des contentieux ou faire des tests de performance, etc. Et bon, comme on n'est jamais mieux servi que par un exemple concret de prod, bah, il récupère des snapshots des bases de données de prod. Et en fait, pour s'assurer que ces bases de données... alors déjà, petit troll, on espère que tout ceci est bien sûr anonymisé hein, quand ils font ça, pour éviter que n'importe qui puisse faire des snapshots de prod, mais bon, ça reste entre eux. Pour s'assurer que ces bases ne restent pas trop longtemps... ne reste pas trop longtemps et que en fait on soit sûr que tout est clean. En fait, ils ont tout un processus de routine qui s'assure que les bases de données sont cleanées au pire au bout de X temps. Et ben c'est vous le donne en mille hein, mais c'est le problème est lié à ça. En fait, il y a une mise à jour récente dans leurs outils en interne qui fait que le call API qui est utilisé pour réaliser et cleaner l'ensemble des bases de données, bah il a été mal update et au lieu de delete la base, je vous le donne en mille, ça delete l'instance. Et donc au lieu de cleaner proprement juste les données, bah en gros ça droppait le serveur. Enfin, le serveur, les services, les réplications, tout ça. Donc, c'est une belle boulette. On a clairement pas tous les détails de la boulette et à quel point c'est entre guillemets juste une typo dans le curl qui va bien. Mais on sait cependant que en gros 17 serveurs de prod avec leurs réplications, etc., hébergeant un nombre de DB clients important, ont été délétés. Et donc ça sur la zone sud Brésil. La panne, elle a été détectée et diagnostiquée en fait relativement vite avec leur système de monitoring. Microsoft communique qu'en moins de 20 minutes, ils avaient compris, ils avaient vu le problème, ils avaient compris d'où ça venait, etc. Mais bah, il faut réagir. Et puis, bah, vous le savez tous, hein, restaurer des bases de données avec de la réplication, etc., bah, ça peut être parfois un petit peu long. D'où les 10h30. Bon, ils expliquent aussi que, même si c'est pas hyper clair, comme il y avait des clients qui avaient des cas visiblement un peu tricky en termes de restauration. En gros, il suffisait pas juste de réinjecter un dump, il y avait des trucs un petit peu plus compliqués. Les personnes qui étaient d'astreinte, ils pouvaient pas le faire seuls, ils avaient besoin du mec d'astreinte Azure SQL dédié, etc., parce que bah il faut des permissions un petit peu avancées pour faire ça. Donc ça a rajouté un petit peu de lag. Et puis le truc un peu pénible pour les clients, c'est que eux, à leur niveau, en fait, ils pouvaient pas être autonomes pour essayer de eux-mêmes, enfin sauf s'ils avaient eux-mêmes dumpé un truc ailleurs, etc. Mais en gros, ils étaient pas vraiment autonomes. Donc du coup, tout ça a fait que bah, ça a pris pas mal de temps. Donc les fameuses 10h30. En plus, bah comme donc c'est sur une région, mais pour des raisons de haute disponibilité, ça doit être répliqué, etc., bah le temps de restore est d'autant plus potentiellement augmenté, en tout cas pour s'assurer que la synchro elle est full. Donc voilà. Et puis en plus, pour rien arranger, alors il donne tout un tas de détails là-dessus, enfin de détails assez vite fait, mais en tout cas de détails sur le fait que bah, ce problème a enchaîné d'autres soucis en cascade. Donc bref, une belle dinguerie. Et en fait, le problème, il est au-delà du fait que ça semble être une typo dans le curl, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça qu'on parle de cet incident. Le Microsoft avoue que le bout de code en question, en fait, il est pas testé. Et si on traduit du mot à mot de leur blog post, ils disent que les conditions dans lesquelles ce bout de code est exécuté sont rares et n'ont pas été couvertes par nos tests. Voilà, en gros, ce qu'ils disent. Donc forcément, ça aussi, on revient à cette histoire de si ça peut merder, ça va merder. Loi de Murphy, tout ça. Avoir une couverture de 100% de votre code, bah, c'est jamais inutile. Hein. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que il communique forcément sur tout ce qui a été fait pour se prémunir. Donc ce qu'ils ont fait et qu'ils ont mis du temps à remettre, c'est que tout simplement la fameuse routine a été désactivée pour éviter qu'il y ait la même chose un petit peu ailleurs. Ensuite, elle a été fixée. ils ont rajouté une batterie de tests autour de cette routine, de l'appel de la fonction, etc. Et surtout, un truc que j'ai oublié de citer pendant le truc, mais c'est que les fameux snapshots sur lesquels les ingénieurs d'Azure faisaient leurs tests, en fait, ils étaient restaurés sur l'instance de prod, en gros, sur le serveur sur lequel qui hébergeait toutes les bases de données. Donc, en gros, en plus d'avoir la base de données client, il y avait la base de données client clonée pour les administrateurs. Bon, bah forcément... C'est pas ouf. Et donc, du coup, maintenant, ils vont avoir des serveurs dédiés quand ils vont restaurer les bases de données pour faire donc leurs travaux d'investigation et de test. Donc, encore une fois, c'est un sujet... ça me fait toujours un peu... ça me rassure toujours de voir que même des grands noms comme Microsoft, on avait parlé d'autres entreprises plus tôt dans le podcast, enfin dans d'autres épisodes. Bah, quand ce genre de grosses boîtes qui sont quand même des leaders techniques, qui sont aussi des gens qui produisent plein de choses intéressantes pour nos métiers, se plantent. Ça nous rassure qu'on est tous humains. Et puis, ce qui est rassurant dans le post-mortem, c'est qu'a priori, les actions pour y remédier ont été mises en place et ça, c'est pas mal. Donc voilà. René, est-ce que ce type de problème t'évoque quelque chose? Est-ce que tu as eu affaire à ça?
Non, pas spécialement, mais non, je pense que tu as dit beaucoup de choses. Après, moi, je trouve que d'après ce que tu dis, il faut reconnaître que là, Microsoft, ils ont l'air d'avoir été super transparents par rapport au problème. Donc ça, c'est quand même chouette. Même si dans le détail, on sait peut-être pas tout, mais voilà. Puis c'est quoi, ça arrive encore une fois, on voit que ça arrive à tout le monde. Après, ben, forcément, ces acteurs-là, ils sont bien en vue, donc quand ils font une coquille, ben voilà, on en parle, enfin tout le monde en parle. Mais ouais, voilà, j'avais pas vu passer cette nouvelle. Donc ben voilà, c'est toujours intéressant de voir que oui, des gros acteurs peuvent se prendre les pieds dans le tapis.
En tout cas, bravo pour la récupération parce que ça a dû faire peur quand même, mine de rien. Tu parlais de plusieurs serveurs. Moi, ça m'hallucine toujours ce genre de choses qu'on puisse perdre des serveurs au lieu de perdre les backups qu'on avait remontés. Mais bon, ça sont des choses qui arrivent. Et heureusement qu'ils ont pu les remonter. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, et c'est un des exemples qui fait que bah, heureusement que l'infra code est là, parce que sinon je pense que ce serait pas 10 heures, mais ce serait plusieurs jours qu'on aurait mis à remonter ces bases de données là. Je sais pas ce que t'en penses, Erwan, mais
Ah oui, bah clairement. Et puis moi, ce que je retiens quand je lis un truc comme ça, c'est que là, même si c'est une tâche donc qui visiblement est relativement exceptionnelle, etc. Bah en vrai, si c'est pas testé, ça merdera de la même façon qu'un truc qui tourne tout le temps. Donc il faut tester, il faut comment dirais-je, éprouver tout ce qu'on fait, enfin tant autant qu'on peut. Et après, voilà, le seul truc qu'on peut reprocher, c'est qu'effectivement, enfin qu'on peut reprocher, il y a probablement d'autres choses, mais un des trucs qui est peut-être pas malin et qui à garder en tête si pour vos infras, c'est que bah, quand vous faites des restaurations et tout, bah, faites-les sur des trucs qui n'ont rien à voir avec votre prod. Hein. C'est toujours plus safe comme ça. Si jamais il y a une boulette, la requête qui va pas ou quoi que ce soit, bah, vous n'allez pas gêner la prod, vous n'allez pas gêner les clients et tout le monde sera ravi.
Alors moi je m'étonne, c'est que d'après ce que tu nous dis, le snapshot il est fait à la demande. Donc déjà il y a deux choses qui m'interrogent. La première c'est ils font des snapshots des bases de données clients chez Amazon, enfin chez Azure, excuse-moi.
Ouais, alors tu sais les détails de vraiment comment ça se passe, c'est un peu compliqué de savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une procédure pour vérifier des informations. Donc ils parlent de contentieux ou quand il y a des réclamations, ils ont besoin de récupérer bah, du coup des données pour les analyser. Et donc dans ce cas-là, visiblement, ouais, il récupère des snapshots de base de données, mais c'est pas clair de savoir si c'est. Bah, je pense pas que ça. En fait, j'en sais rien. Non. Je vais pas me prononcer. J'en sais rien. Mais c'est pas clair si c'est directement les bases de données des clients ou des bases de données qui sont relatives aux clients et bah, je sais pas qui. Peut-être qu'ils sont liés à son activité sur la plateforme.
Là,
Je
je
saurais
te
pas dire.
confirme de mon côté aussi, je trouve que l'article est pas clair là-dessus. Alors je me pose l'autre question, c'est pourquoi ne pas le faire en automatique, ces snapshots, et le faire à la demande. J'imagine que ça doit être des demandes qui sont tellement rares que ça vaut pas le coup de mettre en place une procédure automatisée qui prendrait un volume de données énorme. Je pense que c'est ça en fait qui fait qu'ils l'ont pas automatisé et sécurisé plus que ça. Alors je dis sécurisé
Bah,
plus que ça,
attention,
c'est
là on est sur le c'est le clean qui a foiré en fait. C'est
Ouais.
le clean de la DB qui a foiré et au lieu de clean DB bah c'est clean DB.server quoi, c'est
C'est ça. C'est ça. Bon, ben, tant pis. Alors, ben, je vous propose qu'on passe à la suite. Hop. Et moi, je vais vous parler du TechRadar Cloud de Paddock. Alors, c'est au travers un post LinkedIn de Clément David, qui est le CEO de Paddock, qui est une ESN dans la tech, que j'ai appris justement la sortie de ce TechRadar Cloud. C'est en fait la synthèse de centaines d'heures de travail chez eux, puisqu'il y a plus de 60 technoclouds qui sont classés et analysés pour nous aider à faire le tri dans notre écosystème tentaculaire, parce que l'écosystème cloud, il est vraiment énorme. Donc Paddock nous promet une actualisation annuelle de ce document, Donc ça, c'est la première édition, et on verra si l'an prochain, il y a une actualisation. Donc le Tech Radar, il est consultable sur leur site ou téléchargeable en PDF, et il se présente sous la forme d'un cadran qui porte 4 thématiques. La première, c'est la résilience, qui est la capacité à maintenir un niveau de service élevé, même en cas de perturbation de panne. La deuxième, c'est sur les opérations, qui présentent les outils et technologies qui améliorent l'exploitation en production sur les infrastructures cloud natives. La troisième, c'est la sécurité, où ils ont choisi parmi un large panel d'outils open source ou de patterns particulièrement adaptés à des environnements cloud natives. Et enfin, il n'y a pas de mot pour empowering, à part empouvoirement, mais c'est très moche, comme vous le voyez. Dans ce dernier cadran, on retrouve l'ensemble des techniques et technologies qui permettent d'offrir aux développeurs, en fait, et aux développeuses, utilisant nos infrastructures, une expérience fluide afin qu'elles soient plus productives, les équipes de développement. Et en plus de ces 4 thématiques, il y a les outils qui sont classés parmi 4 niveaux d'adoption. Le premier niveau, Adopt, c'est une technologie recommandée en fonction de notre stack technique. Ensuite, il y a Trial, technologie prête à l'emploi, mais Paddock pense qu'elle pourrait encore être optimisée. Assess, qui sont des technos à surveiller pour voir si elles répondent à des besoins spécifiques. Et Hold, qui sont des technos qui n'ont pas convaincu Paddock et qui ne recommandent pas leur utilisation à ce stade. Donc, il va falloir encore attendre qu'elles soient plus matures. Chaque techno est décrite en plus pendant pour une page, ce qui nous permet d'avoir une vision synthétique des technos. Et donc, je vais finir là par mon avis. C'est un outil indispensable pour nous, les CTO ou Lead Tech, qui faisons ce travail de veille. Et donc, merci à Paddock de l'avoir fait. Je vous mets le lien en description. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Erwan.
Oui, je l'ai vu passer, je l'avais lu, et je suis d'accord, c'est un bon outil, mais c'est un bon outil, c'est bien documenté, parce que pour chaque outil, il y a en gros une description avec, il raconte tout un tas de choses, comment ça peut être utilisé, etc., mais c'est assez bien, ça a assez bien expliqué. Et la façon dont c'est présenté, c'est que c'est pas que de la technique. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu dis pour les CTO et tout, pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins hands-on, effectivement, je trouve que c'est pas mal. Après, je pense qu'il faut quand même, faut pas prendre ça comme une bible pour autant. C'est le retour d'expérience de Paddock, de leurs ingénieurs, de leurs équipes. Il y a des choses avec lesquelles, par exemple, moi, je suis pas totalement d'accord. Rentrons dans le troll, rentrons dans le débat. Typiquement, mettre que Jenkins, il le met en hold, par exemple. Bon, je suis d'accord, c'est clairement pas l'outil le plus ultime, etc. GitLab, c'est hyper chouette et tout. Mais ça reste un très bon outil pour autant, qui est quand on a un peu d'expérience dessus, est quand même très facile à déployer, à scaler, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça serve d'inspiration, ouvrir les chakras sur certains sujets, avoir un premier aperçu de certains outils et d'avoir une idée à quel point une boîte comme Paddock, qui est quand même une boîte avec une bonne culture, etc. Moi, j'ai plutôt une bonne image de cette SS2I, enfin de cette ESN, pardon. C'est top, mais ne prenez pas ça forcément au pied de la lettre. Pour autant, faites-vous votre idée ou en tout cas échangez avec plus de monde sur le sujet.
Et toi, avant de passer la parole à René, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je le vois exactement comme ça. Pour moi, c'est un outil de défrichage. Un outil qui me permet de savoir sans aller voir tous les outils. Ils sont référencés dans un seul document. Donc, attends, je veux faire ça. Est-ce qu'il y a un outil dans le truc de Paddock? Ah, il fait ça. Et puis après, je vais gratter, on va tester ou quoi que ce soit. René?
Je crois que vous avez tout dit. En fait, c'est un outil qui est intéressant pour faire de la veille et voir un petit peu les outils qui existent. Après, je suis totalement d'accord avec Erwan au sujet de Jenkins. Je pense que faut se méfier un peu de ce côté un petit peu peut-être hype de cet outil-là, où ben voilà, sont mis en, peut-être en avant des technos qui, dont on parle beaucoup, mais certaines qui sont peut-être plus anciennes ne sont pas forcément mauvaises non plus. Donc voilà, totalement d'accord avec ce que Erwan a dit, quoi.
Bon, en tout cas, je t'encourage, chères auditrices et auditeurs, à aller voir justement le site. En plus, comme le dit Clément David, pas besoin de laisser tes données pour pouvoir télécharger l'outil. Je pense que Paddock n'a pas besoin de ça pour faire parler d'eux. Et tout le monde l'attendait, c'est justement la fameuse section des outils. C'est pour ça que j'ai préféré parler du TechRadar Cloud juste avant la section des outils. Et moi, je vais vous parler de TopGrade. TopGrade, c'est un outil qui m'a été suggéré par mon collègue. Donc, c'est un APT update généralisé. Enfin, un APT update, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, je fais des grandes parenthèses avec mes doigts. En gros, il va checker les updates système, donc paquet Debian, paquet, etc. Mais aussi paquet NPM, les Snap, les Flatpak, les cargos, etc., etc., etc. En gros, tout ce qui peut être un paquet géré par le système. Et justement, Thomas, mon collègue, il a commencé à l'utiliser. Il s'est aperçu que on maintenait en fait un nombre incroyable de systèmes, de paquets dans nos systèmes d'exploitation, et que c'est très difficile à tenir à jour. Et grâce à cet outil-là, on va pouvoir justement faciliter la maintenance, puisque avec un seul outil, on va taper tous les autres. Vous connaissiez cet outil ?
Oui. Oui, oui, je connaissais, mais j'ai jamais utilisé. Après, je pense que, comment dire, c'est ce qui est compliqué, c'est que souvent il faut essayer quand même de se tenir aux paquets qui sont proposés par la distribution et pas mixer trop les sources avec, je sais pas, du pip d'un côté, enfin quand c'est possible, etc. Parce que ben oui, effectivement, après ça devient compliqué de savoir comment tel outil a été installé, avec quoi, et ça c'est assez chiant.
Voilà. Alors je suis d'accord avec toi, néanmoins, moi je suis sur Ubuntu, sur ma station de travail, et comme tu le sais, René, Ubuntu, il a tendance à délivrer des paquets Debian, mais aussi des Flatpak, des AppImage et je ne sais quoi, parce qu'il y a des, par exemple, il y a des applications qui n'existent que en AppImage. Et donc on a quand même, même si on se contente des Debian, parce que moi je préfère installer du Debian, on a quand même des outils qu'on ne peut pas installer autrement que en passant par les paquets Snap ou Flatpak, et ça commence à devenir pour moi problématique.
Oui, oui, je suis d'accord. Après, en plus, c'est différent, je pense, si tu parles de station de travail ou si tu parles de serveur. Après, oui, malheureusement, ben parfois, t'as pas le choix d'utiliser un système, pas forcément le système de ta distribution, soit parce que le paquet n'existe pas, soit parce qu'il est trop vieux. Voilà. Mais voilà, dans la limite du possible, c'est bien d'essayer de coller à ce que la distribution fournit. Voir si possible, des fois c'est pas compliqué de repackager, par exemple si la version c'est pas la version que l'on souhaite, c'est assez facile de partir du paquet source et de le reconstruire avec la bonne version. Donc voilà, ça faut penser à parfois c'est peut-être plus propre que d'installer quelque chose qui vient d'un autre gestionnaire de paquet complètement différent.
C'est vrai, mais est-ce qu'on a le temps de le faire dans nos vies déjà surchargées ? C'est un grand débat. Erwan, est-ce que tu connaissais cet outil ?
Non, je ne connaissais pas. Et effectivement, je suis sous Ubuntu aussi. Et je vois très bien la peine que ça couvre. Il faut que je regarde, voir si ça peut justement me satisfaire. Mais sinon, je ne connaissais pas. Tu découvres.
Eh bien, écoute, puisque tu as la parole, garde-la, tu veux nous parler d'un outil.
Ah oui, c'est vraiment un outil un petit peu tout petit, mais que j'ai trouvé assez sympa, qui s'appelle snips.sh. Snips, c'est un espèce de paste bin, mais sauf que le snips.sh, ça va vous permettre de tout faire en CLI. Et donc du coup vous allez avoir un espèce de paste bin donc qui marche over SSH, avec toutes les options que vous auriez aimé avoir dans un passbin service, à savoir est-ce que je veux que ça soit en privé, si c'est en privé, combien de temps ça, enfin si je souhaite le partager, combien de temps avec un token donné, est-ce que je veux dropper le truc au bout de X temps, etc., etc. En plus, vous pouvez le self-hoster. Donc c'est quand même toujours sympa. C'est juste un petit conteneur, un ou deux conteneurs, je sais plus. Enfin, bon, c'est très facile à lancer et à hoster. Et franchement, au début, je me suis dit, oh, c'est encore un truc un petit peu, bon, c'est pas hyper utile. Mais alors, le fait de pouvoir tout interfacer en CLI, moi, je trouve ça mortel. Plus besoin de sortir de son shell. En plus, le CLI est vraiment bien fait, c'est-à-dire que vous avez soit une espèce d'interface dans votre terminal, soit c'est vraiment à utiliser comme un curl, quoi, où vous passez les options et tout. Bref, vraiment très pratique. Si demain vous avez besoin de mettre en place un passbin, un private bin ou ce genre de choses, eh ben ce petit outil peut vous aider.
Alors de ce que je comprends, c'est que tu as à la fois le client qui te sert sur tes serveurs ou sur ta machine, qui envoie un service en ligne que tu peux même toi-même auto-héberger, c'est ça ?
Exactement, c'est exactement ça. T'as le CLI qui interagit en fait avec une instance, et par défaut tu interagis avec le SaaS qui est déjà dispo. Et après, effectivement, si t'as pas envie d'héberger des trucs chez des gens tiers, bah tu peux héberger toi-même le service pour pas grand chose.
C'est super intéressant. Je vais sonder mes clients pour voir si ça les intéresse. Parce que justement, ce genre d'outil, ça améliore la collaboration entre les techs, en fait.
Ouais, et puis la doc est hyper bien faite. Il y a plein d'exemples. Ils ont même fait une espèce de petit gif pour vous montrer comment ça se passe dans le CLI. Bref, vraiment un outil très sympathique.
Ouais, c'est vraiment sympa. Tu connaissais, toi, René ?
Non, je connaissais pas. Effectivement, ça a l'air très bien. Et par contre, oui, pour l'utilisation, nous on utilise très souvent ce genre d'outils pour se partager du code. Et donc voilà, ouais, c'est. Après, nous, un des avantages, c'est qu'on n'a pas de code privé. Donc on peut le partager un petit peu sur n'importe quel site. Mais effectivement, c'est pour les personnes qui peuvent avoir du code privé, je pense que ça a l'air chouette.
Justement, puisque tu parles de code privé, Erwan, puisque tu as étudié un peu l'outil, est-ce que justement le code est envoyé chiffré au serveur et les administrateurs, administratrices du serveur ne peuvent pas le voir, et seulement la personne à qui il est destiné pourrait le voir ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que ta communication avec le service, elle se fait over SSH. Donc au moins les données, elles transitent clairement. Chiffré. Quand tu génères un lien, bah c'est du HTTPS, donc c'est aussi chiffré. Par contre, j'ai pas regardé le code suffisamment en détail pour savoir comment c'est stocké, etc. Je vais pas m'avancer. Je vous laisserai auditer tout ça. Moi, j'avoue, j'ai fait un petit peu le naïf là-dessus. J'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, tiens, je vais partager l'info, mais j'ai pas regardé plus en détail l'implém.
Eh ben écoute, si, cher auditeur, tu as envie d'aller regarder ça et de nous dire si, justement, quand tu partages quelque chose en privé, la donnée est chiffrée et que l'exploitant de la solution ou le SaaS snip.sh ne puisse pas voir le code, dis-le nous en commentaire de cette vidéo. René, tu as un outil à nous partager.
Oui, un petit outil. Assez basique. C'est un outil qui est une alternative à Estras. Donc Estras, c'est pour sonder un process et voir quel système call il fait. Et c'est vrai que Estras, c'est un petit peu ancien et pas forcément très user friendly. Donc là, Lurk, c'est cet outil, s'appelle comme ça, et il donne une interface un peu plus sympa. à Estras. Voilà.
Et ben moi, je ne connaissais pas, je n'utilise même pas Estras. Erwan, toi.
Ah ben moi, justement, quand tu as évoqué le truc de l'interface pas hyper sympa, Estras, c'est exactement ça. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus hostile en termes d'output, de nom d'option, de la fausse forme. Bref, du coup, moi, je suis curieux. Je vais regarder à quoi ressemble. Est-ce que tu en es au stade où ça a remplacé Estras pour toi?
Non, pas complètement, parce que j'ai toujours bien le réflexe d'utiliser Estras, malheureusement. Voilà, ça fait des années que j'utilise, donc ça, c'est le premier truc qui tilte.
Bon, alors moi, je vais vous parler d'une alternative à LS, le fameux utilitaire que tout le monde utilise, qui s'appelle Hexa. Donc Hexa, ça fait la même chose que LS, mais seulement ça le fait avec des couleurs et des noms de colonnes, et c'est présenté en colonnes et en tableaux, très bien présenté. Alors visuellement, il faut que vous alliez voir sur le site, parce que en podcast c'est dur à expliquer, mais en termes d'ergonomie, ça offre une autre vision de ce qu'on voit, et du coup ça devient vraiment plus clair, mais vraiment vraiment plus clair. J'ai vu mon collègue l'utiliser, et clairement c'est beaucoup plus clair. Alors après, ça ne peut pas remplacer LS dans les scripts ou ce genre de choses, parce que LS n'apporte pas tout ce sucre qui justement le permet d'automatiser, mais dans une utilisation au quotidien, ça peut être vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous connaissiez Erwan, est-ce que tu connaissais Hexa?
Non, je connaissais pas, mais alors je viens juste de cliquer sur le lien pour regarder. Vraiment, je suis que sur la première image et je me dis, mais c'est pas juste des... je me souviens plus toutes ces variables où on peut changer les couleurs de notre shell, etc. Est-ce qu'avec un bon set de couleurs, tu fais pas la même chose que ce qu'on voit là?
Non, c'est vraiment une réécriture en fait de LS.
D'accord.
Donc moi perso je connaissais parce que ça fait partie des, je pense que ça se trouve je l'ai même déjà évoqué, ça fait partie de tous les outils qui ont été réécrits en Rust, tous les outils qui en Shell qui ont été réécrits en Rust, et donc Hexa c'est le LS. Et il y en a un autre que par contre là j'ai basculé et j'utilise, j'ai pas choisi Hexa, j'ai choisi un autre qui s'appelle LSD. Et bon, c'est quasi la même chose, sauf que je le trouve encore plus clair, et LSD aussi utilise les nerd fonts, donc du coup il arrive à mettre des petits icônes aussi en fonction du type de fichier, et voilà, après c'est une question de préférence, mais voilà, moi c'est plutôt LSD.
Ah oui, je vois sur la capture d'écran notamment, on voit très bien ce qu'est un répertoire par rapport à un fichier, et ça c'est quand même visuellement c'est quand même vachement bien. Si on a déjà parlé d'Hexa, alors je m'excuse parce qu'en plus je fais une recherche à chaque fois dans les notes de tous les épisodes précédents pour voir si on a déjà parlé d'un outil, et ben j'aurais raté un truc. Mais en tout cas, si c'était le cas, ça nous a permis, en tout cas ça a permis à René de parler de LSD, qui a l'air vraiment sympa aussi, que je vais tester. Nous arrivons à la clôture de cet épisode. Si tu as apprécié l'épisode, tu sais que tu peux venir en discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps. La communauté des compagnons du DevOps, c'est ce podcast, ces vidéos YouTube, mais c'est aussi et surtout un forum dans lequel on se retrouve. Il y a déjà plus de 1500 professionnels avec lesquels on discute pratiquement au quotidien. Je vois qu'il y a des messages tous les jours maintenant. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc viens t'inscrire et viens discuter avec nous. En tout cas, on sera ravis de discuter avec toi, chère auditrice et auditeur. Eh ben, pour clôturer l'épisode, je vais vous laisser le mot de la fin. René, je vais te laisser commencer.
Ouais, eh ben tu m'as pris un peu de cours, donc je vais rester classique. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
À chaque fois, mes interlocuteurs ils me disent toujours « Ah, tu prends un peu de cours, Christophe ». Pourtant, vous devriez être habitué, vous savez que je vous demande un mot de la fin tout le temps en plus. N'est-ce pas, Erwan?
Oui, et ça sera stickers.
Et c'est un stickers de quoi que tu nous présentes?
d'un artiste qui s'appelle Dark ou Dark Snoopy, suivant là où il agit. Il agit pas mal dans les rues parisiennes.
Eh ben merci Erwan.
Ça invite à découvrir son Instagram.
Exactement. Bah tu le mettras en commentaire de la vidéo YouTube. Comme ça au moins on ira le découvrir. Eh ben merci à tous les deux et toi cher auditeur auditrice, je te dis dans un prochain épisode de podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.